Bonjour à tous. Pourquoi sommes-nous réunis ce matin? Pourquoi avez-vous décidé de venir? Au lieu peut-être de faire la grasse matinée, je ne sais pas. Alors il y a probablement plusieurs raisons qui vous poussent à venir au temple. Et je pense que d'une personne à l'autre, les raisons évoquées ne seraient pas les mêmes. Et peut-être que certains d'entre vous n'avaient même pas envie de venir, mais vous êtes tout de même venus pour une raison ou une autre. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas vivre notre foi, chacun de notre côté? L'Église est un beau projet de Dieu, c'est une famille qu'il a lui-même composée, mais cela demande du temps, de l'énergie, de l'investissement personnel et aussi de l'argent pour les frais communs. Et comme dans toute famille, il peut y avoir des difficultés. Alors pourquoi cela vaut-il la peine de traverser ces difficultés, s'il y en a, pour vivre la foi ensemble? Il y a des chrétiens, même je dirais un certain nombre de chrétiens, déçus ou blasés par l'Église, que ce soit dans l'Église catholique ou l'Église protestante. Dès qu'il y a une sorte de vie commune, eh bien, il y a des personnes déçues. Alors rassurez-vous, je ne veux pas vous décourager. Nous verrons dans quelques instants un texte qui nous encourage à vivre l'Église dans l'unité. Mais je pense qu'il faut avoir conscience des enjeux de la vie communautaire. Alors voici quelques raisons que j'ai entendues de la part des chrétiens qui ne veulent plus s'intégrer dans une église. Tous les exemples que je prends concernent des chrétiens évangéliques. Il y a plus d'une douzaine d'années, voilà, je marchais dans la rue à Paris et j'ai croisé une mère de famille que j'avais aperçue à l'église et qui ne venait plus. Elle m'a dit, pourquoi elle ne venait plus? Elle m'a dit, on se lasse. On entend toujours la même chose. On tourne en rond. On essaye de faire bouger les traditions, mais rien ne bouge. Un jour, un jeune, il devait avoir 25, 27 ans, il m'a dit, je peux vivre ma foi seule. Je sais que je suis sauvé, donc voilà. Je m'efforce d'aimer Dieu, je m'efforce d'aimer mon prochain. Alors je n'ai rien contre l'Église, mais elle ne m'apporte rien. Voilà ce jeune m'a dit. Enfin, dernier exemple, un jour une personne m'a dit, l'Église que je fréquentais est très bien, mais il ne se passe pas grand-chose. Chacun est dans son confort. J'ai besoin d'une communauté qui m'interpelle plus pour me faire grandir davantage dans la foi. Et je trouve que toutes ces raisons évoquées par ces chrétiens, eh bien, elles sont à entendre. Personnellement, cela m'interpelle et me fait encore réfléchir. Je ne sais pas où en sont ces personnes que j'ai croisées un jour. Certains ont certainement renoué avec l'Église. Ils avaient peut-être besoin de prendre un peu de recul. Ou alors, elles sont restées dans la même situation. Je ne sais pas. En tout cas, lorsque je lis des textes comme la lettre de Paul aux Philippiens, je vois clairement un appel pour chaque chrétien à avoir une vie d'église, même si cela peut être difficile ou peut nous être compliqué. Je propose ainsi de continuer notre lecture de la lettre de Paul aux Philippiens. La semaine dernière, notre prédicateur, Luc Oleknovitch, qui a été pasteur ici il y a quelques années, a prêché sur le chapitre 2, les versets 1 à 5. Et aujourd'hui, je vous propose de relire ces versets 1 à 5, mais de poursuivre jusqu'au verset 12. Donc, Philippiens, lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 12. Est-ce que je peux demander à Aïna de faire passer les diapos? S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Je trouve que ces instructions de l'apôtre Paul sont difficiles à mettre en œuvre. Il nous demande d'avoir de l'humilité au point de considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Il nous demande de faire les choses pour l'intérêt des autres et non pas notre propre intérêt. Le verset 5 est l'un des plus forts, il me semble. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. La barre est très haute. La barre est haute. L'apôtre Paul nous demande de prendre comme modèle le Christ. Personnellement, je ne suis pas à la hauteur. Mais en tant que prédicateur, j'ai la tâche d'exposer le texte et mettre en évidence comment nous devrions l'appliquer dans notre situation d'aujourd'hui. Ce qui est demandé est difficile, mais nous sommes appelés à y travailler. L'apôtre Paul nous demande d'avoir la même attitude que Jésus-Christ. Alors il y a une question de traduction, si vous lisez dans votre Bible, il y a peut-être une traduction différente, mais l'idée est la même, d'avoir les mêmes motivations, d'avoir les mêmes sentiments qui nous motivent que Jésus-Christ. Tout de suite après, au verset 7, il nous dit que Jésus s'est dépouillé. Alors d'habitude, j'ai 2, 3, 4 points dans ma prédication. Aujourd'hui, c'est mon premier et mon dernier point. Jésus-Christ s'est dépouillé. Aujourd'hui, je vais traiter simplement cet aspect du texte. Mais de quoi s'est-il dépouillé ? Eh bien, le texte nous dit, l'apôtre Paul nous dit qu'il s'est dépouillé de sa condition divine. Ce passage, nous sommes un peu dans la continuité des textes que Gilles a choisis. Ce passage est un texte de Noël, est un texte de l'Avent par excellence. Dieu le Fils était de condition divine. Il était l'égal de Dieu. Il était Dieu. Mais il a décidé de mettre de côté ses avantages divins pour devenir un homme. Dieu a mis sa divinité de côté en Jésus pour devenir un homme. Alors Jésus n'a pas arrêté d'être Dieu en venant sur terre, mais il a mis de côté tous les avantages qu'il avait en tant que Dieu. Alors bien sûr, il a fait des miracles, mais seulement pour les autres. Il ne s'est pas servi soi-même. Ce dépouillement est un acte d'amour par excellence. Dieu n'est pas resté là-haut sur son trône, en train de regarder le monde se perdre. Il a tant aimé le monde qu'il est venu nous sauver. Et nous l'avons chanté, il est venu, tu es venu jusqu'à nous. C'était le titre de l'un des chants choisi par Gilles, tu es venu jusqu'à nous. Parmi toutes les visions du monde qui existent, dans toutes les religions, le christianisme est la seule croyance, le message de la Bible est le seul, qui annonce un Dieu qui s'est fait homme. Un Dieu qui s'est fait homme. Son amour pour l'humanité s'est manifesté par l'incarnation. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'amour est un sentiment. Alors ce n'est pas faux, l'amour est aussi un sentiment, mais pas seulement. Les sentiments peuvent être éphémères, ils peuvent être variables d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre. Selon la Bible, aimer, c'est se donner entièrement. Autrement dit, se donner sans reprendre. C'est donc promettre de se donner, s'engager de se donner. C'est une décision de chaque instant. Dieu s'est donné pour nous. Il est devenu homme et il a conclu une alliance, une nouvelle alliance. Il a établi, ou plutôt rétabli, une relation avec l'humanité. Pour mettre cela en œuvre, il s'est dépouillé de sa condition divine pour revêtir l'humanité, pour avoir ce lien avec nous, ce lien le plus intime avec nous. Il est devenu comme nous. Nous sommes appelés à prendre exemple sur lui. Et comme je l'ai dit, la barre est haute. C'est intéressant de voir que l'apôtre Paul nous invite à prendre modèle sur le Christ dans un passage où il parle de la vie d'Église, de l'unité, de l'humilité les uns envers les autres. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Faut-il se dépouiller financièrement pour faire fonctionner l'Église? Pas du tout. En tout cas, je ne pense pas que l'apôtre Paul parle de l'aspect matériel dans ce passage. Alors évidemment, pour les frais communs, nous avons besoin d'argent et nous avons besoin de solliciter toute la communauté. Mais ce n'est pas le thème de ce passage. Lorsque Paul nous invite à nous dépouiller comme le Christ, il nous invite à tout faire pour le bien commun, pour l'unité. Dans le contexte, il nous invite à considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Il nous invite à ne pas chercher d'abord nos intérêts, mais les intérêts des autres. Et lorsque nous agissons ainsi, c'est comme si nous nous dépouillons, nous nous mettons de côté, en quelque sorte, nos droits. En tant que fils de Dieu, Jésus avait des avantages, il avait des pouvoirs, il avait des droits. Il aurait pu vivre sur terre comme un prince, mais il a vécu comme un fils de charpentier. Concrètement, dans l'Église, nous sommes invités à mettre de côté ce que nous pourrions considérer comme des droits ou des avantages, afin de chercher l'intérêt de l'autre. Je prends un exemple. Imaginons que dans l'Église, nous ayons besoin, alors peut-être pas dans cette Église, mais voilà, dans une Église, c'est pas vraiment le cas ici, mais imaginons que dans l'Église, on ait besoin d'avoir des rideaux. Voilà, ici ce n'est pas le cas, mais c'est un exemple fictif. Imaginons aussi que pour financer ces rideaux, un membre fasse un don important, plus important que les autres. Et vient le moment où il faut choisir ensemble la couleur des rideaux. Est-ce que celui qui a donné plus d'argent serait en droit de choisir à lui seul la couleur, puisqu'il a donné plus, il a plus d'action, un plus grand pourcentage? Ou est-ce que son avis vaut plus que celui des autres? Voilà, les autres ont le droit de donner leur avis, mais son avis vaut plus. Alors cet exemple nous paraît un peu farfelu. En fait, il n'est pas tant que ça. Parfois, on veut faire valoir des droits sous prétexte que l'on a beaucoup fait pour l'Église, sous prétexte que l'on est là depuis longtemps, sous prétexte que l'on est nouveau, sous prétexte que l'on est jeune, sous prétexte que l'on est parent, que l'on est seul, etc. Si nous prenons l'exemple de Jésus, nous devrions nous préoccuper plus souvent des intérêts des autres plutôt que nos propres intérêts. Alors oui, les personnes âgées devraient être plus visitées, les personnes nouvelles mieux accueillies, les plus jeunes mieux accompagnés, les plus anciens mieux respectés, les parents d'enfants mieux compris, et je pourrais continuer avec une très longue liste. Nous pourrions tous légitimement être en attente de quelque chose et faire valoir des droits, en quelque sorte. Et effectivement, il faut reconnaître que l'Église a beaucoup de progrès à faire sur plusieurs points. Personnellement, j'ai des attentes vis-à-vis de l'Église. Et vous aussi, peut-être, vous avez des attentes. Mais le texte de ce matin nous appelle à prendre exemple sur le Christ qui a choisi de ne pas faire valoir ses droits divins. Versets 6 et 7, « Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. » Alors ce texte pose tout de même question. Un chrétien est-il enfermé dans une sorte d'esclavagisme ? Est-il appelé à refouler ses désirs, ses besoins pour seulement servir les autres ? Un chrétien est-il appelé à ne jamais exprimer ses attentes vis-à-vis de la communauté ? Un jour, il y a quelques années encore, j'ai visité un homme veuf qui n'osait jamais dire aux autres qu'il allait mal. Il était membre de l'Église, mais il vivait ses souffrances seul dans son coin. Et même lorsque j'allais le visiter, il ne voulait pas parler de lui, parce qu'il y avait, selon lui, des choses plus importantes que lui. Si c'est cela, être chrétien, alors c'est bien triste. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. L'apôtre Paul nous invite à ne pas considérer que notre avis ou notre point de vue est supérieur aux autres. Mais concernant les besoins, nous avons le droit d'en avoir, de les exprimer avec douceur et respect. Dans d'autres passages des Écritures, nous sommes invités à prier les uns pour les autres et même à demander la prière de la communauté si besoin, et donc à exprimer nos besoins. Si vous avez des besoins, exprimez-les. L'un des objectifs de la lettre aux Philippiens est d'inviter les chrétiens à vivre dans l'unité, une unité joyeuse. Cela demande que nous fassions attention les uns aux autres en ayant un esprit de service. Considérer les autres supérieurs à soi-même, si tout le monde faisait cela, il n'y aurait pas de conflit dans les communautés, il n'y aurait pas de tension ou de frustration. Au contraire, une église qui vit pleinement ces choses serait un lieu plein de joie, de respect, de convivialité, d'amour, de témoignage. Et oui, de témoignage, car l'église n'est pas appelée à vivre dans une bulle, mais ouverte vers le monde. Et quand je parle de l'église, ce n'est pas seulement le dimanche matin, mais c'est la vie que nous avons, que nous pouvons avoir en commun le reste de la semaine. Lorsque dans une communauté, chacun pense d'abord aux autres, alors tout le monde est à la fois serviteur et aussi au bénéfice du service des autres. C'est cela le désir de Dieu pour l'Église, un lieu, une famille remplie d'amour, de bienveillance et de beaux témoignages. Et quand bien même l'Église aurait des défaillances ou des défauts, et nous sommes tous défectués, donc plein de personnes avec des défauts mis ensemble, eh bien, ça fait un lieu. Oui, il y a des défauts, mais nous avons le Seigneur et son Esprit qui nous aident. Et cela vaut le coup de s'y investir, parce que nous ne travaillons pas pour nous, mais nous travaillons pour la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre souligne au chapitre 1. Il prie pour que les chrétiens soient remplis du fruit de justice pour la gloire de Dieu. Enfin, celui qui travaille pour Dieu s'amasse des trésors dans le ciel. C'est Jésus qui le dit dans les évangiles. Nous n'avons pas forcément le fruit de notre travail tout de suite, mais nous savons que nous récolterons ce que nous savons semer. Jésus a obéi à Dieu, il est allé jusqu'à la mort sur la croix, il est revenu à la vie. Mais bien plus, il a été élevé à la droite de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que nous aussi, Dieu nous réserve une place auprès de lui. Il est même dit que nous régnerons avec lui. Cela veut dire que nous serons comme Jésus, nous aurons une place d'enfant de Dieu auprès de Dieu, parce que nous sommes bien ses enfants dès aujourd'hui. Pour conclure, j'aimerais nous inviter à continuer de méditer ce passage. C'est un texte tellement riche qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Je continuerai même peut-être sur ce même texte une autre fois, peut-être la fois prochaine, en traitant d'autres aspects, bien sûr, du passage. En attendant, poursuivons notre réflexion en demandant l'aide du Saint-Esprit. Je dis cela pour la raison suivante. Nous vivons dans une époque où les nouvelles générations, déjà présentes dans l'Église, où la mentalité aussi est de plus en plus présente, nous vivons dans une époque où les nouvelles générations s'investissent quelque part s'ils y trouvent un sens. Pour les générations précédentes, on s'investit à l'Église parce que c'est un devoir. Les grands-parents l'ont fait, les parents l'ont fait, et donc c'est notre devoir de le faire. Mais pour les générations présentes, les nouvelles générations, ce n'est pas un argument. On le fait si on y trouve un sens. L'apôtre Paul annonce que nous nous engageons dans l'Église pour la gloire de Dieu. Mais il faut en être convaincu, pas seulement l'entendre ou le comprendre, mais en être convaincu. Si le service est vécu comme un devoir, une contrainte, alors cela ne sera pas fait avec joie. Et à la moindre difficulté, cela va être mal vécu. Mais si nous sommes convaincus que c'est Dieu qui nous y appelle, alors nous aurons plus de persévérance et de joie, même dans la difficulté. C'est pour cela qu'au-delà de la prédication d'aujourd'hui, où j'ai tenté simplement d'exposer le texte et son application, au-delà de cet exposé, nous avons besoin d'être guidés personnellement, chacun personnellement, par l'Esprit. Notre implication pour le bien de la famille de Dieu se fait à la mesure de ce que nous comprenons grâce à l'Esprit. C'est important, et je le répète, notre implication pour le bien de la famille de Dieu se fait à la mesure de ce que nous comprenons grâce à l'Esprit. Que l'Esprit Saint, donc, nous fasse grandir dans la compréhension de l'œuvre du Christ qui s'est dépouillé par amour pour nous sauver. Et que notre attitude soit toujours plus semblable à celle du Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci de nous demander quelque chose que tu as toi-même fait. Tu as envoyé ton Fils qui a mis de côté tous ses avantages, tous ses droits, sa divinité, sa condition divine plutôt, pour prendre la condition humaine. C'est ce dont nous nous rappelons pendant cette période de l'Avent, cette période de Noël. Oui, Dieu s'est fait homme. Merci pour ce sacrifice déjà, d'être devenu un homme, de prendre la condition humaine pour venir à notre rencontre, pour former cette famille qui est l'Église. Père, nous voulons te demander ton aide, parce que la barre est haute, mais nous voulons y travailler ensemble, parce que c'est le beau projet que tu as pour nous. Un projet que tu veux pour nous, parce qu'il est, il est beau et nous savons qu'il peut nous apporter de la joie, de l'édification et même un témoignage pour tous ceux qui voient l'Église vivre. Notre Père, nous voulons te demander de pouvoir vivre cela dans la persévérance, dans la joie, dans la convivialité. Aide-nous à chercher l'intérêt commun, chercher l'intérêt de tous et d'être attentifs les uns aux autres. Que ton esprit nous fasse comprendre ton œuvre pour que nous puissions nous aussi prendre modèle sur le Christ et pouvoir être aussi ce témoignage vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Oui, nous voulons vivre cela avec foi. Nous voulons ton aide parce qu'à nous seuls, nous sommes incapables. Que ton Église puisse être vraiment le reflet de ta lumière, celle qui a été annoncée depuis le début du culte. Que cette Église puisse être lumineuse de ta gloire et de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.